wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Corinne Rondeau et Philippe Chevillet se font face à notre affiche Le Monde d'hier de Stefan Zweig, adaptée par Laurent Sexic, mise en scène par Patrick Pinault et Jérôme Kircher. Réparer les vivants d'après Maïlis de Kerangal, mise en scène Sylvain Maurice. Je passerai en fin d'émission un coup de fil au chorégraphe Felipe Lorenzo pour sa nouvelle création Homo Furins à la scène nationale de Bourges. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Napoléon à Sainte-Hélène, la conquête de la mémoire jusqu'au 24 juillet au musée de l'armée à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous toute cette semaine avec la plasticienne Orlan qui est l'invitée de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec un spectacle qui se joue en ce moment au Théâtre des Mathurins à Paris, Le Monde d'hier, d'après Stefan Zweig, adapté par Laurent Sexic, mis en scène par Patrick Pinault et Jérôme Kircher, interprété par ce dernier. Comme Zweig le rappelle lui-même dans ce dernier livre, Le Monde d'hier, il a été, de son vivant, l'écrivain le plus lu de son temps, le plus traduit dans le monde, enseigné dans toutes les écoles d'Allemagne. Puis vint le nazisme. Le Monde d'hier est le dernier livre de Zweig, rédigé en 1942. Ce sont ses mémoires dont il poste le manuscrit à son éditeur la veille de son suicide, avec sa femme, le 22 février, au Brésil. Le texte sera publié 2 ans après sa mort.
Je suis né en 1881, dans un grand et puissant empire, celui des Habsbourg, mais qu'on ne le cherche pas sur une carte, il en a été effacé sans laisser de traces. J'ai été élevé à Vienne, métropole 2 fois millénaire qu'il m'a fallu quitter comme un criminel avant qu'elle fût humiliée jusqu'à n'être plus qu'une ville de province allemande. Mon œuvre littéraire a été réduite en cendres dans le pays même où mes livres s'étaient fait des amis de millions de lecteurs. C'est ainsi que je n'ai plus de lien nulle part. Étranger partout, hôte tout au plus, là où le sort m'est le moins hostile. Même la vraie patrie que mon cœur a élue, l'Europe, est perdue pour moi. Depuis que pour la seconde fois, prise de la fièvre du suicide, elle se déchire dans une guerre fratricide. Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité. Jamais, je ne le dis pas avec orgueil, mais avec un sentiment de honte. Une génération n'est tombée comme la nôtre d'une telle puissance intellectuelle dans une telle décadence morale. Mon aujourd'hui est si différent de chacun de mes hier qu'il me semble parfois avoir vécu non pas une existence, mais plusieurs, toutes diverses. Quand je dis sans y prendre garde ma vie, je me demande laquelle de mes vies. Celle d'avant la Première Guerre mondiale, celle d'avant la Seconde, ou ma vie de maintenant. Quand je me surprends à dire ma maison, de laquelle de mes anciennes demeures j'entends parler, si je dis « chez nous », je me souviens aussitôt avec effroi que depuis longtemps, je n'ai plus de patrie.
Voici cet extrait, plutôt au début du spectacle, ce montage à partir de ce grand et grand livre qu'est Le Monde d'hier. Forcément, évidemment, il s'agit de prélever, on en parlera aussi tout à l'heure pour le livre de Maïlis de Kerangal, prélever quelques extraits pour former un récit. C'est ce qu'on voit en ce moment sur la scène des Mathurins. On commence avec vous, Corinne Rondeau.
Ah oui, c'est une gageure quand même d'adapter au théâtre un roman qui est un testament, finalement, vous l'avez énoncé dans votre introduction, Arnaud. Donc, on doit dire qu'effectivement, tout le travail de Laurent Sexic a été très, très bien fait dans la mesure où il ne s'encombre pas d'anecdotes, mais effectivement, le découpage de ce livre de 500 pages à peu près relève tout de même d'une mise en, je dirais, une mise en tension d'une actualité que nous pourrions partager d'une certaine manière sur le rapport à l'histoire. Puisque le livre de Le Monde d'hier de Zweig, c'est effectivement témoigner, je dirais, à la fois d'avoir été ce grand écrivain et aussi l'aspect de déchéance absolue que le nationalisme, dont il va se battre dès 1920, va le conduire évidemment à quitter l'Europe qui... Alors, moi, je trouve qu'effectivement, sur le travail de l'adaptation, je trouve que c'est très bien. On repère très bien dans le livre ce qu'il a fait, comment ça a été fait. Je trouve qu'aussi, le type de mise en... la scénographie est très bien. Parce que la scène
n'est
pas très...
Hein, c'est une toute petite
scène.
Oui,
c'est une petite scène, hein. Mais en même temps, c'est suffisant, finalement. Dans la mesure où, en fait, il y a une triangulation. Il y a d'abord un pan de mur noir, puis un rideau anthracite où il y a une légère lumière blanche qui vient de temps en temps jouer. Et c'est par un interstice qu'apparaît l'acteur, Jérôme Kercher. Et il a une dimension, je dirais, contemporaine. Il est habillé comme nous. Il ne faut pas retrouver un Stephen Zweig, même s'il parle à la première personne. Et effectivement, il y a quelque chose de fantomatique. Il a quelque chose, en fait, d'une inquiétude. Presque, il a une grande fébrilité. Parfois, je l'ai trouvé trop fébrile, je dois dire. Mais en même temps, c'est aussi une inquiétude qui venait s'incarner dans une histoire passée. Et je trouve que sur cette scène, alors il arrive avec un chapeau, un manteau, il y a une chaise, un livre. Et tout ça passe en 1h20 à peu près,
oui,
ou 1h10.
Ouais.
Et ça passe assez bien comme une sorte de fulgurance de la vie de quelqu'un qui a absolument tout connu de cette Vienne magnifique, c'est-à-dire cette Vienne où toute la jeunesse n'était que portée par la culture, il n'y avait que ça qui vivait. Et en même temps, c'est aussi ces mêmes, je dirais, ces mêmes intellectuels, ces mêmes écrivains, ces mêmes artistes, comme Thomas Mann aussi, enfin, dans cette période-là, qui ont été les visionnaires dès 1920, qui se sont battus contre le nationalisme, et dont il l'est dit aussi, grâce cette partie qui a été prise du texte Le Monde d'hier, que la fondation même de cette destruction de l'Europe vient en 1910. Il dit d'une certaine manière, nous n'avons jamais été que les témoins, mais aveugles en 1910 de cet effondrement qui allait faire disparaître non seulement Vienne, qui devenait une province allemande, mais en plus de l'Europe lui-même. Donc il y a effectivement, je trouve que la scénographie, l'acteur, la manière dont le texte est ramassé sur une sorte de rapport très culturel et politique, donne effectivement un horizon assez sobre de l'horizon que trace avec ce texte visionnaire et a posteriori, je dirais, c'est une réussite, on va dire. Voilà.
Je reviens vers vos réserves, car j'entends qu'il y en a dans un instant, mais d'abord Philippe Chevillier sur ce spectacle à l'affiche des Mathurins.
Alors moi, j'ai à peu près le même sentiment. J'avais vu les derniers jours de Stephen Zweig, de Laurence Sexy, qu'il en avait fait une adaptation de son livre pour le théâtre en 2012. Et je trouvais que là, c'était un petit peu... Il y avait des moments un peu trop qui se voulaient littéraires. Ça faisait un peu pièce, un peu compassée, comme ça. Et là, j'ai trouvé qu'il a vraiment taillé ce qu'il fallait dans le texte. À la fois parce qu'on retrouve cette dimension, effectivement, merveilleuse, qui est sans doute magnifiée, mais où on peut taper sur l'épaule de Brahms, où on parle de malheur, où finalement, la chose la plus importante au monde, c'est la culture, et puis ce basculement dans l'enfer qui est très bien annoncé, qui est très bien négocié. Et ensuite, moi, ce qui m'a le plus frappé dans le spectacle, c'est cette résonance avec le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de l'Europe qui explose à cause des nationalismes, quand on parle même sa façon de parler d'Adolf Hitler, quand il dit au fond, personne n'avait peur d'Hitler, même quand il est chancelier, il a tellement promis de choses à tout le monde pense qu'il va tirer son épingle du jeu et qu'on le balayera à la première occasion, et ça n'a pas été le cas. Donc cette dimension-là, ça nous parle, on pense à la montée de l'extrême droite, on pense au nationalisme, et du coup, effectivement, il fallait une mise en scène, là, pour le coup, c'est presque une lecture, au fond. Mais je pense qu'avec un texte pareil, c'est important d'avoir une sobriété, bien sûr, et d'ailleurs, le fait que Kircher et Pinault, qui sont deux comédiens, se soient mis à deux un petit peu pour eux, ils se sont vraiment concentrés sur la direction d'acteur. Et cette direction d'acteur, je l'aime bien, parce qu'il y a effectivement ce côté, vous disiez, très, très, très naturel, il en fait pas des tonnes, mais en même temps, c'est à la fois, il a un parler très contemporain, donc il nous fait entrer en résonance avec aujourd'hui, et en même temps, il sait qu'il est Stephen Zweig, et il sait qu'il est ce fantôme, il sait qu'il est cet homme blessé, et il y a ces, dans ces déchirures qu'il y a par moments, dans ces fièvres qui sont peut-être plus ou moins maîtrisées selon les soirs, mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une dimension d'acteur très importante pour porter ce texte, et qui nous le fait entendre de façon assez, assez sublime, finalement.
Alors, je crois que aussi le spectacle bouge un peu, et je pense s'améliore de soir en soir, parce que j'ai lu ensuite que c'est un projet qui a été monté extrêmement vite, hein, 2 mois avant la première, et que du coup Jérôme Kircher a fait appel à Patrick Pinault, ils se connaissent depuis le conservatoire, pour travailler avec lui, parce qu'il voulait pas se lancer seul dans cette aventure-là. Moi je l'ai vu il y a pas très longtemps, et on m'avait dit qu'il avait beaucoup son texte en main, Jérôme Kircher, c'était presque plus le cas, je crois que Corinne Rondeau vous l'avez vu hier, je crois.
Ouais.
Et voilà, ça, c'est vraiment
le texte. Ça le gênait, moi j'ai trouvé que ça le gênait, ce livre, parfois.
Oui, bon. Et enfin, en tout cas, je pense qu'au début, effectivement, le côté lecture était peut-être induit par le livre à la main. Il l'est de moins en moins. Bon, bref, ça, c'est technique, mais c'est quand même important dans ce qu'on peut ressentir comme spectateur. Mais, c'est-à-dire, moi, je peux que recommander ce spectacle, surtout à celles et ceux qui connaissent mal, je pense, Stephen Zweig, parce que c'est vrai qu'on a vraiment des parcelles de ce grand livre qu'est Le Monde d'hier. Et ça ne peut que donner envie d'en lire davantage. Et c'est vrai que même si c'est un livre qui est à part dans l'œuvre de l'écrivain, on y retrouve les qualités de Zweig, d'ailleurs, dont il parle lui-même, c'est-à-dire une grande économie de mots, c'est-à-dire il faut sans doute et le plus possible à faire mettre le moins de mots dans une phrase pour pouvoir en dire le plus. Et c'est vrai que cette adaptation, alors il s'est servi, il faut le dire, de la traduction de Jean-Paul Zimmermann, qui est une traduction très élégante, efficace, comme l'est, je ne lis pas l'allemand, mais comme l'est, dit-on, la langue de l'écrivain. Et puis c'est vrai que c'est toujours nécessaire d'entendre ce que vous disiez, l'un et l'autre, la recension que fait Zweig de la cruauté, de l'absurdité du monde. Lui qui pointe effectivement d'emblée le poison, le nationalisme, hein, c'est vraiment énoncé comme tel, donc c'est vrai qu'on peut l'écouter, hélas, je pense à toutes époques, mais peut-être particulièrement aujourd'hui, et à méditer au présent. Je peut-être reviendrai là-dessus, mais Corinne Rondeau, souhaitez poursuivre.
Oui, je dois dire que je comprends qu'on puisse adapter ce livre au théâtre. Dans la mesure où à la fin de sa préface, Zweig dit « Seul ce que je veux moi-même conserver a quelque droit d'être conservé pour autrui ». Et il ne faut pas négliger que c'est quand même un juif autrichien, grand écrivain, international, qui va tout perdre. Ses livres sont brûlés,
détruits, cloués.
Alors, cloué au pilori, donc j'entends d'une certaine manière quelque chose pour la culture qui est laissée et qui est un legs, et que ce livre. Mais si on connaît un peu Stephen Zweig, on sait aussi que cette lecture, elle est organisée par son témoignage à travers des textes pendant la guerre de 14-18. Je pense à Ypres notamment, qu'il écrit en 1928, bien après la guerre de 14-18, où il parle justement du changement du monde tel qu'il est déjà en train de se faire, dont il a déjà reconnu les traces en 1914 avec un autre texte. Tout ça se trouve dans un monde sans sommeil, hein. On a des petits textes très courts. Effectivement, c'est l'homme des nouvelles, c'est l'homme d'une vitesse folle. Je veux dire, si vous avez envie de vous suicider, prenez un Zweig, il vous empêchera de vous jeter par la fenêtre, parce qu'il vous fait tourner les pages, il vous donne une impulsion, parce qu'effectivement c'est l'homme de l'économie, celui qui enlève de la superfluité, quoi, d'une certaine manière, et en même temps c'est l'homme des pavés, des œuvres, des grands personnages d'histoire. Et on a l'impression qu'effectivement Un Monde d'hier est un livre qui est lui-même sa propre histoire, c'est le personnage qu'il faut marquer. Alors je comprends le témoignage, je comprends aussi que cet homme nous a dit quelque chose bien avant son œuvre testamentaire, qui est aussi, il écrit, hein, à partir de 14-18, il dit « Réapprendre à aller d'hier à demain en passant par cet aujourd'hui que nul n'appréhende entièrement ». Appréhender à guérir, ce que j'aime beaucoup comme phrase, appréhender. Et ce livre est une guérison sans fin, Un Monde d'hier. Et il nous dit déjà en 1914, 1928, nous ne voyons pas l'événement. Et d'une certaine manière, au théâtre, quand nous donne, même bien coupé, le monde d'hier avec les éléments structurants de notre actualité, j'ai eu, moi, une sorte d'ambiguïté à l'égard de ce texte, enfin de ce montage. À la fois, je me disais, mais et ça d'ailleurs, ça m'a décroché du jeu parfois, en me disant, mais finalement, il y a un problème de nous manquons de vision. Et en même temps, Zweig avait lui-même dit que dans l'événement, on manque le vision, puisque en 42, il envoie ce manuscrit, il l'a écrit quand il part d'Europe, et d'une certaine manière, il lui a fallu tout ce temps-là, même si on traite cette œuvre de visionnaire, il y a quelque chose d'un après-coup. Et donc on se dit, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, oui bien sûr, de Zweig, mais comment pourrions-nous, est-ce que ça nous suffit finalement? Parce que il y avait quelque chose dans le silence du public qui démontrait ah c'est nous aujourd'hui, et j'ai envie de dire non, parce que c'est quand même pas notre histoire celle de Zweig, même si il y a des montées de nationalisme et qu'à force de ne pas avoir notre propre parole au présent, ce rapport au passé doit être autre chose.
Oui, alors qu'il décomplexifie finalement le présent, et c'est-à-dire que ce serait presque un contresens par rapport à Zweig de dire regardez ce qu'il a écrit, ça nous parle d'aujourd'hui, alors que l'aujourd'hui on ne peut pas le comprendre, l'appréhender, c'est ce que dit Zweig. Donc il y a presque un contresens, mais en tout cas une ambiguïté.
Il y a une double contrainte. Pour moi, alors je pense que oui, il faut l'adapter, oui, je pense qu'il faut l'entendre, mais je pense aussi que ça ne
suffit pas.
Que la culture viennoise ça ne suffit pas.
Philippe Chevillier, sur cette idée-là?
Oui, en même temps, je pense qu'il y a suffisamment de moments, je disais, historique, hein, et ce que vous disiez sur l'aspect sur le fait que dès 1910 il commence à voir monter l'extrémisme de droite, les nationalismes, etc. C'est quand même des repères d'histoire. Moi, je trouve ça toujours bien qu'on nous redonne ces repères. J'ai quand même pas eu l'impression. Effectivement, on a des moments où on pense à nous-mêmes, on pense à aujourd'hui, mais enfin on est toujours ramené quand même à cette histoire terrible. On est ramené par des éléments, parce que à chaque fois, même quand il est en Angleterre et que tout d'un coup il devient, puisqu'il y a la déclaration de guerre, il est exilé mais il devient un ennemi.
Il est parti d'Allemagne parce qu'il est juif, mais quand il est en Angleterre avec la guerre déclarée avec l'Allemagne, il est vu comme un Allemand et donc tout aussi indésirable.
Absolument. Et puis en plus il y a cette dimension des deux guerres. C'est pas seulement c'est la Seconde Guerre mondiale qui est le paroxysme de l'enfer total, mais on a aussi la Première Guerre. Donc moi j'ai pas abandonné le côté historique. C'est vrai que c'est un peu court, 1h15, et que pour les lecteurs en plus de Zweig doivent se dire c'est un peu court, mais ça peut pousser justement des gens à aller plus loin et à lire d'autres choses. Donc moi je trouve ça très bien qu'en 1h15 on crée une espèce d'électrochoc, quoi.
Je remets pas du tout en question que ça n'existe pas. Ce que cette pièce interroge pour moi, c'est de me dire où se trouve effectivement une parole au présent qui pourrait être aussi mise en scène et dans laquelle on retrouverait une contemporanéité, un présent comme Vienne l'a connu pendant la jeunesse de Zweig. C'est la seule chose qui me gêne. Qu'on nous fasse de l'histoire, c'est une chose. En même temps, une scène de théâtre, c'est pas une leçon d'histoire. Faut quand même pas le négliger. Ou alors, il faudrait carrément rappeler la citation de Shakespeare dans le chapitre l'agonie de la paix de Monde d'hier, où il dirait nuages, brumes et dangers. Notre œuvre est terminée. Enfin, voilà. Mais donc, je peux. Je suis pour la pièce, je suis pour cette histoire, je suis pour qu'on en reparle. Je m'interroge justement sur notre rapport à notre propre histoire. Qu'est-ce qui ferait notre temps et notre parole à nous? Voilà.
Philippe, pour finir, Philippe
Chevillier. Il dit le monde d'hier et un peu d'aujourd'hui, et alors après on peut aller voir, mais je ne veux pas anticiper sur les prochaines disputes, mais je suis Fassbinder qui nous parle de l'Europe d'aujourd'hui, le spectacle de Nordet et de Falk Richter. Et c'est intéressant de faire une filiation, et donc il faut aller au théâtre
pour voir ceux qui nous parlent d'aujourd'hui, ou qui essayent de le faire.
Et compléter avec ceux qui nous parlent d'hier.
Ouais. Bon, mais voilà, en fait, de toute façon, c'est un long feuilleton que ces disputes. Et effectivement, on parlera bientôt de ce spectacle signé Falk Richter et Stanislas Nordet. Pour l'heure, nous parlions du monde d'hier, d'après Zweig. C'est au théâtre des Mathurins à Paris. J'ai pas dit à quel point je trouve que Jérôme Kercher, qui est un interprète sensible dans cet espace réduit et une forme de minimalisme qui est bienvenue, en l'occurrence. Je trouve qu'effectivement, il a cette inquiétude et cette façon d'être habité qui, moi, m'a touché.
Oui. Il a le clou du pilori dans le corps, ça c'est clair.
Ouais. Ça c'est beau aussi. Donc ce spectacle se joue au Mathurin jusqu'au 19 juin.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de l'adaptation de Réparer les vivants par Sylvain Maurice. Avant cela, nous retrouverons l'invité de la dispute, la plasticienne Orlan, dont l'exposition ouvre samedi au FRAC Normandie-Caen. Il faut le dire que c'est avec le soutien dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Tout d'abord, place aux impressions d'Antoine Guillot à la lecture de la presse pour cette revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. On en a déjà parlé brièvement ici, mais l'affaire Yann Fabre, comme on l'appelle désormais en Grèce, continue à faire parler d'elle, tant elle laisse un goût amer, le sentiment d'un rendez-vous raté, comme le constate la correspondante du Monde à Athènes, Adéa Guillot. Le 10 février, à la surprise générale, l'artiste belge est nommé par le ministre de la Culture grecque Aristide Baltas, curateur du Festival international d'Athènes et d'Épidaure, qui existe depuis plus de 60 ans. Ce dernier est le principal pourvoyeur de subventions et d'emplois pour des artistes grecs malmenés par la crise économique. On promet alors à Fabre un budget annuel de 5 millions d'euros et une carte blanche sur ses choix artistiques. Il a fallu faire vite. Un mois et demi plus tôt, Georges Loukos, président depuis 2006 du festival qu'il avait entrepris de réformer, a été limogé, accusé d'avoir mal géré les finances et entraîné des pertes de 2,7 millions d'euros. Il ne restait que quelques mois avant le début du festival en juin. Aristide Baltas espère alors, en choisissant Yann Fabre, élargir le profil international du festival, échaudé par le licenciement brutal de Loukos, mais curieuse de l'animal artistique qu'est Fabre, innovateur et provocateur, la scène culturelle grecque attend l'annonce de la programmation. C'est là stupeur. Lors d'une conférence sur invitation, accompagnée du ministre grec de la Culture et entourée de son staff exclusivement flamand, Fabre dévoile son programme, des spectacles 100% belge la première année avec Fabre lui-même à Épidaure et puis du Fabre en 2017, en 2018, en 2019, pas ou peu d'artistes grecs. Yann Fabre prévoit de les former aux subtilités de la création belge dans une académie pour jeunes artistes, une condescendance qui blesse. L'écrivaine Marimaï Corbel, qui vit et travaille en Grèce, écrit alors « Yann Fabre, par son ignorance de la situation grecque, n'a pas mesuré ce que son projet pouvait avoir de relent colonialiste nauséabond dans le contexte politique et historique grec. Le 1er avril, près de 500 artistes se réunissent au théâtre Sphendoni d'Athènes. Ils déclarent Yann Fabre persona non grata et demandent sa démission ainsi que celle de ses collaborateurs. Ils exigent aussi le départ du ministre de la Culture. Le lendemain, Fabre démissionne et dénonce amer un milieu artistique hostile. Trois jours plus tard, en catastrophe, le metteur en scène grec Vangelis Theodoropoulos est nommé nouveau curateur du festival. Qui est Vangelis Theodoropoulos? La revue en ligne Mouvement, qui suit de près l'affaire dans des enquêtes fouillées jusqu'au plus pointilleux des détails, a son idée sur l'homme. Outre qu'on le dise proche du parti Syriza, ses spectacles passés ne semblent guère promis à la postérité et la seule langue qu'il parle est le grec, ce qui ne semble pas le meilleur atout pour assumer la direction artistique d'un festival international. Fin de l'acte 1, mais la blessure est profonde, poursuit Le Monde. Yann Fabre répond le 8 avril dans une lettre ouverte aux artistes grecs. Si vous invitez un artiste multidisciplinaire à devenir le curateur d'un festival, ne vous attendez-vous pas à ce qu'il présente son univers, plaide-t-il. Quant à la question de la sous-représentation de la création grecque, Yann Fabre souligne qu'étant conscient avec son équipe de leur méconnaissance de la scène artistique nationale, il a fait le choix d'opérer une sélection internationale pour la première année. Mais, dit-il, nous avons demandé qu'un curateur artistique grec soit engagé pour sélectionner les créations grecques pour 2016, ce qui a été rejeté par le conseil d'administration du festival. L'affaire Yann Fabre continue de susciter la polémique en Grèce puisque désormais, ce sont les dessous des nominations à divers étages du festival qui font débat à trois mois d'ouvrir ses portes. Celui-ci fonctionne en roue libre. Et la culture dans tout cela, interroge Jean-Marc Adolphe dans Mouvement. Donc, on pouvait espérer que le gouvernement Syriza entreprenne d'en démocratiser les structures. De loin, on peut avoir l'impression que la vie artistique grecque se résume à quelques grandes institutions institution passéiste, il existe en fait depuis longtemps un très important vivier de compagnies indépendantes, dont témoigne par exemple l'émergence relativement récente de metteurs en scène et de chorégraphes consacrés par des scènes internationales. Inutile de préciser que dans une situation économique particulièrement tendue, ces artistes-là ne sont pas davantage épargnés que le reste de la population, rendant leurs moyens de production particulièrement précaires. Ce n'est pas seulement l'argent qui manque, mais aussi les lieux de travail, les moyens de diffusion, etc. N'importe quel gouvernement, de surcroît, s'il se proclame progressiste, devrait voir dans un tel vivier artistique et culturel une chance formidable pour tirer le pays vers le haut. Il n'est pas sûr que l'actuel ministre de la Culture, Aristides Baltas, ait une telle lucidité, ni même les compétences, voire la volonté politique d'ouvrir ce chantier en concertation avec les artistes et les acteurs culturels qui mènent au quotidien ce combat. Il est tellement plus confortable de se servir du pouvoir pour négocier quelques arrangements entre amis et réserver à quelques privilégiés la part de gâteau qui reste. De la nomination mal préparée de Yann Fabre à celle précipitée de Vangelis Theodoropoulos, l'affaire du Festival d'Athènes est désespérante pour la Grèce, mais elle l'est aussi pour l'Europe. En tout cas, cette part d'Europe qui n'est pas celle des technocrates et des politiciens et des clichés caricaturaux qui ont laissé proliférer sur les Grecs, mais la nôtre, admirative du sens d'humanité, de solidarité et d'hospitalité dont fait part la population grecque à l'égard des réfugiés.
Bon, quel drôle d'affaire. Enfin, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Non, vous avez suivi ça un peu, Philippe Chevillier, ou de loin ?
Pas mieux que dans la...
Revue
dans
de presse. La chronique.
Pas mieux que dans la chronique. Non, c'est, alors après, il y a toujours cette idée de vouloir nommer une star à la tête d'un festival. Parfois, on prend pas toutes les précautions nécessaires. Je pense que la maladresse, quand même, de Yann Fabre est quand même assez avérée. Ensuite, après, c'est vrai que le gouvernement grec, il a pas mal de problèmes en ce moment. Ils sont peut-être maîtrisent pas très bien le secteur culturel. J'en sais rien. Donc moi je me sens pas habilité à pouvoir décerner des prix bons ou mauvais au ministre de la culture que je connais pas ou au gouvernement. C'est vrai que cette histoire est mal partie pour l'instant. Espérons qu'ils vont se reprendre. Et je pense qu'effectivement il y a plein de, moi je les ai pas en tête, mais il me semble qu'il y a des compagnies vivantes.
Des compagnies, il y a des chorégraphes, il y a des auteurs, il y a tout ce qu'il faut en Grèce pour faire un festival. Je pensais à Olivier Py qu'on critique dès qu'il fait un spectacle à Avignon. Alors quand on voit Yann Fabre à Athènes,
j'y pensais aussi.
Il y a de la marge quand même.
Cette année, il fait juste un petit spectacle.
Itinérant. Bon, voilà. Ça veut dire qu'il va être dans plein de salles, mais c'est le même petit spectacle. Enfin bon, voilà. Donc, il faut quand même aussi regarder les choses près de chez soi aussi, de temps à autre. Dans quelques minutes, nous allons parler de Réparer les vivants, adapté et mis en scène par Sylvain Maurice. C'est bien sûr d'après le roman de Mélisse de Kerangal. Avant cela, nous allons retrouver l'invité de la dispute. Cette semaine, nous la passons avec la plasticienne Orlan, dont on peut retrouver la toujours très riche actualité. Il y a certainement une exposition en Grèce, elle a des expos dans le monde entier, Orlan, elle. On retrouve son actualité sur le site franceculture.fr, à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Cette semaine, nous sommes heureux de la passer avec vous, Orlan, et de nous intéresser, pour commencer, puisque c'est lundi soir, au spectacle vivant. Et je me demandais si vous étiez, vous, une spectatrice de théâtre, de danse, d'opéra. Est-ce que vos pas vous conduisent dans les salles de spectacle?
Et n'oublions pas la performance.
On ne l'oublie pas, mais elle n'est pas toujours dans des lieux de spectacle. Justement.
Ça peut arriver tout de même.
Hein. Ah ben heureusement.
Oui, oui, moi j'aime beaucoup le théâtre, mais j'ai quand même des problèmes, oui, avec le théâtre, des rapports un peu conflictuels. C'est-à-dire que j'étais actrice à une certaine époque de ma vie, et à un moment où vraiment on m'apprenait le théâtre, vous savez, le théâtre, la lumière, et on retrouve ça quand même très très souvent. Où on trouve vraiment donc des tics de théâtre, des règles auxquelles j'ai vraiment voulu échapper justement en faisant de la performance. Pour ne pas être en fait acteur ou actrice, mais en tout cas être actant. Tous ces appris et ces manières qui pour moi sont très difficiles à regarder. Dernièrement, j'ai voulu faire l'effort, parce que je vais pratiquement plus au théâtre, d'aller voir ces Castellucci, c'est ça ? Je suis sorti à l'entracte. Pour moi, c'est à la fois il y a des très très belles images, en même temps, c'est pris dans tous les tics de théâtre, quoi. Tous les appris, tous les savoir-faire, et les images, avec aussi des tics, comme le lapin qui est toujours rebondissant chez lui. J'avais déjà vu quelque chose avec cela. Et vraiment, bon, c'est très beau, très esthétisant, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, dernièrement, j'étais avec Bob Wilson, parce qu'on risque de travailler ensemble. Je me rappelle avoir vu Einstein on the Beach, et qui dure 5 heures quand même, enfin qui durait 5 heures, et je l'ai vu 3 fois de suite 5 heures, en étant absolument dans l'intensité, quoi. Mmh. Et donc, on est dans des systèmes de fabrication des images, de la parole et de la pensée d'une manière tout à fait différente. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire on aime ou on n'aime pas le théâtre, quoi, c'est-à-dire lequel, quoi. C'est exactement comme dans n'importe quelle œuvre, quoi. Oui, j'ai à nouveau rencontré Bob Wilson à la grande soirée anniversaire de Troublaine, le théâtre de Yann Fabre. Et je connais Yann Fabre depuis très longtemps. Je l'avais invité au symposium de performance et de vidéo que j'organisais à Lyon. Et il avait présenté un spectacle de 8 heures qui était absolument fantastique. Et c'était à ses tout débuts. Et maintenant, il fait un spectacle de 24 heures que je vais aller voir à Bruxelles en septembre. Et c'est vraiment aussi Yann Fabre. C'est des moments absolument extraordinaires que j'ai passé à regarder ses performances, quoi. On n'en ressort pas indemne, quoi. Il se passe quelque chose, quoi. Vraiment. C'est vraiment un artiste. Enfin, quelqu'un qui est vraiment très, très, très habité. Alors, parfois, c'est des choses qui nous posent question, mais on sait que là, c'est pas quelqu'un qui fait style art. C'est un artiste.
Mais est-ce que vous avez un rapport différent à la danse? Du coup, ou est-ce que ces codes aussi, ou ces nouveaux codes, oui, vous posent problème?
Il n'y a pas beaucoup de nouveaux codes, hein. Il y en a surtout des anciens. Donc ça me pose aussi problème, quoi. Vraiment, vraiment.
Mais dans le cadre de vos performances, Orlan, alors nombreuses et variées avec le temps, quel rapport à la théâtralité pour vous, à la représentation, le rapport au public pour vous, il est de quelle nature?
Mais le rapport au public, il m'intéresse beaucoup quand effectivement donc l'actant se met en scène en montrant justement sa fragilité, ses difficultés, ses limites, ses ratages possibles qui font que tout à coup on est dans une sympathie, empathie avec l'autre qui s'adresse directement à nous et à notre propre corps, à nos propres difficultés, à nos propres limites, quoi. Je suis très étonné de la virtuosité d'un danseur ou d'une danseuse qui va faire des entrechats et qui va tourner, et sauter, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui me touche, qui m'intéresse intellectuellement, comme certaines autres choses, quoi, qui n'ont rien à voir avec la virtuosité. J'aime bien quand la virtuosité, en fait, on peut en avoir, mais tout à coup, on peut en fait la dérégler, lui faire dire autre chose. Alors que là, quand on est uniquement dans cette démonstration-là, même avec le sourire, ça ne me suffit pas, quoi.
Et est-ce qu'il vous arrive, Orlan, d'avoir été ou d'être encore spectatrice, je ne sais pas comment dire, des performances des autres? Est-ce que vous allez vers d'autres artistes quand eux sont performeurs?
Non seulement des performances, mais moi j'adore l'art. Et il y a des artistes qui m'intéressent, donc c'est vrai que j'ai une grande soif, une grande curiosité de voir des choses, que ce soit en exposition, que ce soit en performance ou autre. Mais c'est vrai que j'ai une intensité de travail énorme et que faut-il encore trouver l'interstice où c'est possible?
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant avec une nouvelle adaptation du livre de Maïlys de Kerangal, Réparer les vivants. Après Emmanuel Noblet, c'est Sylvain Maurice qui porte ce livre à la scène. Le spectacle vient de se jouer au Théâtre Paris-Villette. Il se jouera encore les 27 et 29 avril à la Comédie de Béthune, CDN Nord-Pas-de-Calais. Je rappelle ici le sujet du livre, le trajet d'un cœur vivant dans le corps d'un jeune homme à 5h50, un dimanche matin quand le roman débute, jusqu'à 5h49, le lendemain, quand il est relancé dans le corps d'une femme après transplantation.
Révol se renverse sur son fauteuil. Il ne parvient pas à connecter le visage du jeune homme et la mort. Sa gorge se serre. Près de 30 ans pourtant que Révol évolue dans ces parages. 30 ans qu'il traîne dans le secteur. Révol est né en 1959. Guerre froide. Triomphe de la révolution cubaine. Premier vote des Suisses dans le canton de Vaud. Tournage d'À bout de souffle de Godard. Parution de Kind of Blue de Miles Davis, juste le plus grand album jazz de tous les temps. Dixit Révol qui aime faire le malin, louant son millésime. Autre chose, oui, il adopte un ton détaché afin de ménager ses effets. C'est l'année où l'on a redéfini la mort, ce qui, pour un anesthésiste réanimateur, est tout de même loin d'être anodin. De fait, en 1959, plutôt que d'être ce nourrisson placide au triple menton de sénateur de province, Révol se dit souvent qu'il aurait aimé être dans la salle lors de la 23e réunion internationale de neurologie, ce jour où Maurice Goulon et Pierre Mollaret sont montés à la tribune faire part de leurs travaux. Révol aurait voulu entendre les deux professeurs énoncer avec cette limpidité froide, propre à ceux qui, conscients de la portée fondamentale de ce qu'ils sont venus dire, s'abstiennent d'en rajouter... L'arrêt du cœur n'est plus le signe de la mort.
Réparer les vivants, cette nouvelle adaptation signée Sylvain Maurice avec Vincent Dicèze sur le plateau, mais il n'y est pas seul, en compagnie de son camarade musicien Joachim Latarger. Philippe Chevillier pour commencer sur ce spectacle.
Alors, vous l'avez déjà suggéré, c'est un spectacle qui... Enfin, c'est Réparer les vivants, ça marche très bien, parce qu'on a deux adaptations au théâtre, on a un film en train de se tourner, les gens adorent...
Enfin, fini, hein, qui sera peut-être présenté dans une sélection cannoise, allez savoir, le film de Cattel, qui les verrait.
Voilà. Et quand on voit les réactions de la salle, c'est un peu un triomphe. Les gens sont debout, ça plaît beaucoup. Et moi, j'avoue que j'étais un peu étonné parce que j'ai pas eu du tout ce même sentiment. D'abord, je trouve. Alors, est-ce que c'est l'adaptation en partie le récit est certes efficace, mais finalement, alors que je m'attendais à avoir quelque chose de peut-être de plus poétique, de plus philosophique, on a l'histoire d'une transplantation, grosso modo, avec des personnages qui sont manque d'épaisseur, qui sont un petit peu clichés, que ça soit les parents, que ça soit le jeune surfeur pas très aimable, que ça soit les médecins, il y a aussi beaucoup de clichés chez les médecins, et puis il y a des moments alors c'est efficace comme récit, il y a des moments d'émotion dont on reparlera, donc ça, effectivement on se dit ça peut emporter l'adhésion. Après il y a la mise en scène, donc Sylvain Maurice a décidé de faire une mise en scène, là on n'est pas dans une lecture, il y a un décor qui est, puisque le musicien en fait joue au-dessus du comédien,
mobile,
sur une plateforme qui ressemble un peu, alors il y a un tapis roulant sur lequel le comédien va faire quelques pas de danse ou de marche, ça fait un peu scanner comme Vision ou Tombeau, on ne sait pas très bien. Et bon, après tout, c'est pas ce qui m'a le plus gêné. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est je trouve que la direction d'acteur, Vincent Dicèze, qui a vraiment la technique, hein, qui joue juste, qui mange pas un mot, c'est très clair et c'est très limpide. Mais quel pathos, on a vraiment l'impression que tout est... Et dès la première minute, on est dans une espèce d'émotion effrénée. On nous accompagne dans cette espèce de pathos tout du long. Et moi, j'ai été gêné par ça. J'ai pas ressenti vraiment d'émotion. Il y a quelques moments où il joue beaucoup plus calmement, où là j'ai ressenti quand même passer quelque chose, mais sinon franchement j'ai pas du tout été attrapé par ce spectacle.
Bien, on viendra peut-être préciser quelques points dans un instant. Corinne Rondeau sur Réparer les vivants.
Aïe aïe aïe.
Aïe aïe aïe.
Oui, oui, oui. Je dois dire que j'ai vu moi aussi le scanner, puisque cette plateforme, le musicien se déplace, vient vers le public, puis recule régulièrement. Donc on a effectivement cette dimension du scanner. Et j'en reparle parce que vous vous rappelez peut-être que quand vous avez vu le Castellucci, qui était Goda Moses, il y avait une IRM. Hein, et que d'une certaine manière, même si ça parle pas trop chez Castellucci, on a quand même des visions. Et ce théâtre que j'ai vu, moi, dans Réparer les vivants, mais sorti, mais par tous les pores du corps, parce qu'en fait, je suis confrontée à un univers de langue technique, de langue médicale, et le texte a été découpé pour l'adaptation selon des pointillés chirurgicaux. Autrement dit, je crois que les gens ont regardé Urgence, ils se sont levés, ils ont grandement applaudi spectacle, parce qu'ils ont vu se dérouler un petit film devant eux, parce que la manière dont l'acteur Vincent Dicèze, dit, il donne les images aussi, et ça se déroule devant vous très, très, très clairement, avec cette musique qui accentue à ces moments où ça doit se sentir autrement, etc., etc. Et donc, j'étais affligée, vraiment, d'être soumise à cette langue médicale, à cet univers médical, avec ce que vous disiez, Philippe, des clichés, des stéréotypes. Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose qui était un écrivain, un critique littéraire, qui était grand essayiste, qui était Victor Shklovsky, qui parlait justement vous savez, dans l'art comme procédé, il disait, il y a une langue poétique, celle qui donne des visions, celle qui déplace les habitudes perceptives, celle qui accroît la sensibilité, celle qui délivre des visions, bonjour Castellucci, et puis vous avez la langue prosaïque, qui est l'antithèse de la langue poétique, qui cherche la communication, qui cherche la reconduite d'une économie du signe et de la communication, et j'avais l'impression là que voilà, cette adaptation n'était simplement qu'un déroulé où on retrouvait en fait tous les archétypes du téléfilm, où on a un langage technique, où on a, où effectivement dans la salle d'opération on va avoir les bonnes anecdotes et les bonnes blagues, ce qu'il y a effectivement aussi dans le livre de Malice de Carangal. Et donc moi je suis absolument, comment vous dire?
Aïe, aïe, aïe.
Oui, mais en même temps, il y a un bon raccord entre la pièce et le texte. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème.
Bah, justement.
Ils n'ont pas du tout dénaturé le livre.
Alors justement, bah, je vais faire ce petit retour, puisqu'il y a deux ans, nous nous disputions autour de la sortie du livre de Maëlys de Carangal, et je m'étais trouvé, je me rappelle, bien seul, à dire mes réserves sur ce livre, alors qui a reçu un très bon accueil public et critique, il a glané une bonne dizaine de prix littéraires. J'avais loué certaines qualités du livre sur sa fabrication, une forme de virtuosité, sur sa documentation aussi, tout à fait irréprochable, bien, bien digérée. Mais j'avais conclu en pointant le fait qu'il me manquait dans ce livre une voix, qui serait celle d'un écrivain. Et en l'occurrence, celle d'un écrivain que j'avais beaucoup aimé, Maëlys de Carangal, dont j'ai aimé beaucoup certains des premiers livres. Et là, un peu facilement, je me rappelle avoir dit que je n'entendais plus le cœur battre de Maëlys de Carangal dans ce livre-là. Et bien, c'est vrai que c'est exactement ce que j'ai ressenti devant ce spectacle. Je pourrais peu ou prou reprendre les mêmes arguments, parce que le spectacle est très bien fait, qu'on a un comédien qui joue, qu'on a un dispositif scénique astucieux, une présence voilà, bien dans l'air du temps de musique en live. Moi, j'ai vu un dispositif, j'ai vu un comédien qui module beaucoup, alors qui alterne les cris, quand même un peu trop à mon goût, les chuchotements un peu, et mais sans que jamais, comme vous, Philippe, je ne ressente une émotion. Mais là encore, comme vous, je me suis retrouvé bien seul, puisque il faut le dire, je pense que c'était votre cas aussi, Corinne Rondeau, à la fin du spectacle, beaucoup de gens debout, manifestant leur grand enthousiasme pour ce spectacle. Alors voilà, il nous faut dire ce que nous avons vu aussi dans la salle, mais il y a quelque chose dans ce spectacle, comme dans ce livre, en fait, qui ne m'a pas touché, même si c'est un travail bien fait. On parlait de la scénographie et des lumières, c'est Éric Soyer qui signe notamment les scénographies et lumières de Joël Pommerat, donc au niveau technique, au niveau d'une qualité de dispositif, il n'y a rien à dire, sauf que là, je trouve que c'est au service effectivement de quelque chose sans cœur, c'est un peu facile, mais c'est vrai. Moi, je reste quand même très curieux, on aura l'occasion d'en parler, j'espère, dans quelques mois, de voir l'adaptation qu'a fait Emmanuel Noblet, parce que J'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. C'était présenté dans le Off d'Avignon l'été dernier. Ça n'a pas désempli. Il a beaucoup joué depuis. Il sera en septembre, enfin à la rentrée en tout cas, au Théâtre du Rond-Point à Paris. Donc là aussi, il faudra donner rendez-vous à nos éditrices et auditeurs dans quelques semaines pour faire une sorte de match retour sur Réparer les vivants. Mais en l'état, voilà, je vois un travail bien fait, mais qui ne me touche à aucun moment. C'est ce que vous avez ressenti aussi, Philippe.
Oui, parce que je me disais que sur ce texte et sur la promesse de ce texte, c'était un petit peu, il y avait deux choses. D'abord, il y avait ce va-et-vient entre la vie et la mort qui n'existe plus vraiment ou la vie qui n'existe plus vraiment. C'est une idée assez belle au départ. Et puis cette cosmogonie des êtres avec les organes qui peuvent circuler, qui peuvent faire des gens nouveaux avec des et du coup l'esprit du jeune homme qui peut circuler vers la. Mais non, finalement, on n'a pas ça. On a effectivement ce un peu un téléfilm, comme vous disiez, ça. Suspense, c'est ça qui nous tient en haleine, de savoir si la transplantation va bien avoir lieu au bon moment. Le personnage de la femme qui reçoit le cœur, on l'appréhende encore moins que le jeune surfeur. Et quand on parle du chirurgien et de sa fille, alors là, ça fait un peu série télé aussi. Voilà, il manque cette poésie. Et moi, je maintiens, enfin, il module certes, mais il y a les trois quarts du spectacle. Et à mon avis, surjoué.
Alors peut-être
est-ce qu'il est porté par justement cette adhésion du public, cette complicité. Mais je pense que déjà, si joue un petit peu moins fort,
la musique l'encourage aussi.
Peut-être
à faire ça.
Justement, à partir du moment où on est dans des situations tragiques et où il y a de la musique qui porte, d'ailleurs de façon assez subtile, heureusement, on n'est pas obligé de jouer trop fort.
Corinne Rondeau.
Oui, il y a des moments pas justes dans la voix. Mais écoutez, moi, ce qui m'a sidéré, c'est effectivement les. Pardon, mais on a l'impression d'être de l'autre côté des spectateurs en disant on s'est pas levé, on n'a pas applaudi comme des dératés. Vous l'avez dit, c'est un dispositif. En même temps, effectivement, si les gens sont pris dans des dispositifs et ils adhèrent à des dispositifs, si leur langue c'est une langue technique et prosaïque. C'est une langue que de communication où on nous donne des toutes petites images qui sont racontées par des petits mots sur un tapis roulant. J'ai envie de dire que waouh, il y a du boulot quoi pour qu'il y ait autre chose. Je veux pas opposer Castellucci, une langue poétique et de vision, avec une langue technique et en même temps, je suis bien obligée de le dire,
oui,
et de le confronter.
Juste, hein.
Et, parce qu'en plus, les deux histoires, Golden Moses, c'est sur la mort d'un enfant. Et comment finalement on vient ritualiser la mort. Et d'une certaine manière aussi, c'est parler aussi de l'humanité à travers la mort. Je rappelle que la phrase de Platonov, de Tchekhov, qui est prise pour ce titre « Réparer les vivants », juste avant, il y a quand même enterrer les morts.
Réparer donc, les vivants. Que allons-nous faire ? Réparer les morts, enterrer les vivants.
Réparer les vivants. Et effectivement, si vous dites réparer les vivants, vous êtes dans la mécanique. Vous êtes dans la soudure. Si vous vous dites enterrer les morts, réparer les vivants, vous dites autre chose. Vous dites il faut réparer les vivants des morts qu'ils subissent, des pertes, de la disparition. Ce que fait Castellucci. Ce que ne fait pas cette mise en scène de Sylvain Maurice.
Mais pas plus que le texte de Mélisse Carangal.
Pas plus que le texte. Parce qu'effectivement, on est dans une contemporanéité de la circulation, de la déflagration, du morcellement, de la circulation, comme vous disiez tout à l'heure, éventuellement d'une cosmogonie. Mais je trouve, écoutez, je suis allée voir le texte pour m'assurer que ce qui était dit était bien dans le texte, enfin dans le roman de Maëlys de
Kerangal.
Voilà. Et quand il y a cette page 288, livre de poche, attention, hein, où effectivement la toilette du jeune garçon Simon Limbre est faite par Thomas et qui se met à chanter que le chant devient en fait la mort du héros sur le champ de bataille, qui a accepté de mourir en héros, etc. Et que finalement c'est ça qui rejoint les mythographies et l'écriture. On a envie de dire à l'auteur qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles en mettant de la culture là où finalement il y a un accident. Aussi, qu'on veuille faire passer un personnage à un autre état, c'est une chose, mais que cet état-là ne devienne simplement que des mains qui soient tendues vers les spectateurs, comme un cœur qui va battre et emporter quelque chose d'une mythographie. Moi, je ne sais pas où est la mythographie, je ne sais pas où est l'écriture. Ce que je vois, c'est simplement une écriture technique d'un univers médical, d'un univers de communication où les gens s'identifient à des stéréotypes, et ça me fait bien mal. Bien mal de voir qu'on se lève vraiment avec un enthousiasme, parce que je me demandais où nous pourrions justement enterrer les morts et réparer les vivants. Où sont les morts ? Il n'y a pas de morts.
Ce sera le mot de la fin concernant cette dispute sur réparer les vivants, d'après le roman de Maïlys de Kerangal, mise en scène Sylvain Maurice, qui se joue encore les 27 et 29 avril à la Comédie de Béthune, CDN, Nord-Pas-de-Calais.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et avant de conclure cette émission par un coup de fil passé à Felipe Lorenzo, le jeu de la dispute. Et on commence par un retour sur le jeu de vendredi soir, Antoine Guillot.
Vous avez gagné des invitations pour le 31e Festival International de Mode et de Photographie à hier, du 21 au 25 avril, à la Villa Noailles. Je vous avais demandé quel est le nom du personnage de mannequin imaginé pour son premier film de fiction par William Klein. Eh bien, il s'agissait évidemment de Polly Magoo.
Qui êtes-vous, Polly Magoo, avec Jean Rochefort, dans ce film merveilleux. Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour l'exposition Napoléon à Sainte-Hélène, la conquête de la mémoire. C'est une exposition qui a lieu au musée de l'armée à Paris et qui dure jusqu'au 24 juillet. Pour gagner ces invitations, quelle est donc la question à laquelle il faut répondre, Antoine ?
Quel est le nom de la maison où Napoléon a fini ses jours sur l'île donc de Sainte-Hélène ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Hello.
Et ce soir, j'appelle le danseur et chorégraphe Felipe Lorenzo, auteur de son premier spectacle Homo Furens. On pourra le voir à la scène nationale de Bourges, les 21 et 22 avril cette semaine. Homo Furens qui revisite, on va le voir, l'entraînement des commandos, des forces spéciales par la danse. Vous dites que c'est le film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, qui a inspiré, lancé cette création. Vous avez vu quand pour la première fois ce film ?
C'est un film que j'ai vu il y a environ donc, déjà 5-6 ans. Voilà, il y a déjà du temps que ça s'est bien écoulé.
Et pendant ce temps-là, c'est un film voilà, qui vous accompagnait, auquel vous pensiez comme, comme un point de départ possible ou une inspiration ?
Exactement, oui, c'est un point de départ, une inspiration et certainement bon, par la suite un prétexte voilà, qui m'a donné envie de travailler là-dessus avec ce genre de, d'entraînement commando physique et mental.
C'est vrai qu'en découvrant votre projet aussi, j'ai bien sûr pensé au film de Claire Denis, Beau Travail, qui est un groupe de légionnaires. Sur ce film, Claire Denis avait demandé au chorégraphe Bernardo Monte de travailler avec elle. Est-ce que vous avez vu ce film aussi ?
C'est vrai que c'est pas vraiment la même ligne de conduite que j'ai abordée dans ce travail, mais voilà. C'est sûr que certainement ça. C'est un travail qui est beaucoup plus sur l'entraînement commando, beaucoup plus écrit, beaucoup plus engagé physiquement dans le corps.
Alors justement, votre ligne de conduite, Felipe Lorenzo, qu'est-ce que vous avez demandé à vos interprètes ? Comment est-ce que vous les avez préparés pour ce spectacle ?
Alors, je n'ai pas préparé physiquement, pas du tout. Donc c'est juste, j'ai travaillé sur un entraînement, comme un parcours en fait, de combattant que j'ai élaboré début du spectacle, voilà, que c'est très très clair, très écrit, très épuré, et au fur et à mesure qui se décale et qui sort de ce contexte d'entraînement.
On a parlé il n'y a pas très longtemps avec la chorégraphe Pauline Lédé de son spectacle qui est inspiré des marathons de danse des années 30 aux États-Unis sur la notion d'épuisement des corps. Est-ce que c'est une notion aussi qui est importante dans votre création, l'épuisement, le dépassement physique ?
Oui, très important pour moi. Cet épuisement physique, vraiment physique, qui va jusqu'à l'épuisement même moral, qui par la suite, voilà, à travers cet épuisement total, qu'est-ce qu'on pourrait retirer de ces danseurs ? Qu'est-ce qu'il y a de retirer de plus intime, de plus personnel ? Et c'est vraiment ça, en fait, que je recherchais dans ce travail.
J'ai lu aussi le mot de fraternité pour parler de ce spectacle, le mot Furens. Mais c'est vrai que dans ces entraînements de commando, il y a la notion de groupe, mais il y a quand même aussi la notion individuelle. On a quand même envie d'être plus fort que ses copains, même si on tend la main pour passer l'obstacle. Comment vous jouez avec ça, vous ?
Ben, c'est vrai que, et surtout les artistes, hein, on a tendance à jouer beaucoup sur l'individualité, son ego, son moi. Et là, en fait, la pièce est tellement écrite que c'est impossible, en fait, d'avancer seul. C'est-à-dire, si on avance seul, on est on est à part, on est à côté, et là, le collectif prend énormément de place. Donc, on peut pas avancer, on a un but commun, et pour y arriver, il faut vraiment être ensemble.
On peut le lire très clairement comme une métaphore du monde d'aujourd'hui aussi, ce spectacle ?
J'irai pas jusqu'à là, c'est pas vraiment la chose qui me... Je pensais pas vraiment à ça, mais c'est vraiment, pour moi, plutôt visé au contraste de ce qu'on a l'habitude, nous, interprètes, de se montrer sans cesse, de se dévoiler face au public. Et moi, à travers ce travail d'entraînement commando, c'est comment avancer ensemble, avoir un même objectif et y aller jusqu'au bout. Et
comment se passe le travail avec les interprètes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inattendues? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû modifier dans l'écriture de votre pièce pour correspondre à ce qui se passait en travaillant?
J'ai pas eu vraiment de surprise parce que je savais que ça allait être déjà très compliqué. Donc, physiquement c'est sûr, mais donc c'est pour ça que j'ai demandé une assistante, Déborah Larry, de m'accompagner parce qu'il faut toujours avoir des bons arguments pour les convaincre à se surpasser. Voilà, pousser ses limites. Seul, ça me paraissait compliqué, donc avoir les retours de mon assistante c'est très important. Mais je m'y attendais de toute façon, donc pas de surprise.
Qu'est-ce que ça fait d'être à cette place, celle du créateur, de celui qui dirige, Philippe Benourenço?
Bah écoutez, formidable. C'est ma première pièce, hein. Seul, j'ai fait auparavant avec un collectif deux autres pièces. On est seul à juger, seul à prendre une direction. Et j'avais vraiment cette envie déjà en tant qu'interprète de donner mon avis, même avec mes collègues de travail. Et là, le faire sur le plateau, travailler avec les danseurs, c'est juste remarquable.
Savourez, et nous, on attend de découvrir cette pièce, Homo Furins, qui sera donc donnée, je le rappelle, à la scène nationale de Bourges, les 21 et 22 avril. Merci beaucoup, Philippe Lorenzo. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous Corinne Rondeau, Philippe Chevillé et Antoine Guillot d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez vous abonner au podcast de notre émission, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Leduo, qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. La prise de son était assurée ce soir par Élise Leu. La réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma, en compagnie de Thierry Chaise et Julien Gester. À notre affiche, D'une pierre, deux coups, de Fejria Deliba, Le fils de Joseph, d'Eugène Green. Nous évoquerons aussi plus rapidement Les malheurs de Sophie, de Christophe Honoré, et Everybody Wants Some, de Richard Linklater. Nous retrouverons Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle de la dispute, les choix de la plasticienne Orlan, invitée de la dispute cette semaine, et puis il y aura bien sûr un nouveau cadeau à gagner avec le jeu de la dispute. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, vous retrouverez Laure Adler, et dans quelques instants, le journal de la rédaction.